Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, des engagements, des questions, des écritures et des réécritures qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes et que je vous raconte en suivant l'ordre alphabétique. Aujourd'hui, R comme RBR. RBR, Radio Bury-Rosaire. La radio, créée sur le collège-lycée Notre-Dame de Bury à Margency, à quelques kilomètres seulement de nos studios d'Anguin. Une radio dont je suis un peu, comment dire, le parrain. Une radio qui donne la parole aux élèves sur les sujets de leur choix. Exemple, eh bien, ce rendez-vous compte d'aujourd'hui va vous en donner un aperçu. Drapeau des pirates, expo de photos ou de mode, actualité internationale et même fake news, ces fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Allez, on commence par Amir, en classe de 5e, qui nous parle du drapeau des pirates.
Origine du drapeau pirate. Un pirate est un marin qui veut s'enrichir en pillant les navires qui croisent leur chemin. Lorsqu'on parle de piraterie, le drapeau pirate avec une tête de mort est certainement le premier élément qui nous vient en tête. Depuis la nuit des temps, c'était un symbole qui représentait les bateaux pirates. En effet, ce drapeau attisait la terreur, la crainte et le pouvoir des écumeurs de mer. Le plus célèbre des drapeaux depuis des centenaires et qui le restera est le Jolly Roger. C'est donc un drapeau riche en histoire et en légende. Si tu rêves un jour de devenir un grand capitaine pirate, il t'est indispensable de connaître son histoire, son origine. Tu dois te focaliser sur l'univers de la piraterie. Pour cela, il faut que tu te poses les bonnes questions et que tu trouves les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'un pirate? Comment fabrique-t-il leur pavillon? Ce n'est qu'en 1700 qu'on mentionne pour la première fois l'expression Jolly Roger pour nommer ce pavillon. Au fil du temps, le drapeau pirate aiguise la réputation des boucaniers. Cet emblème varie d'un capitaine à un autre. Il est devenu une marque authentique qui exprime la terreur, la crainte et la puissance. Le Jolly Roger est le symbole historique des activités dans la piraterie. Cette appellation possède diverses origines qui reposent sur les hypothèses des historiens. En se basant dans une analyse religieuse, on a déduit que ce nom vient d'une appellation satanique, Old Roger, un surnom du diable. D'autres hypothèses ont abouti à une origine plus sombre. Les historiens ont démontré que le Jolly Roger provenait d'abord d'une erreur de prononciation. La légende raconte que le Jolly Roger provient d'une traduction fausse. Un pirate français dénommé Emmanuel Vane a créé ce symbole pour se démarquer du lot. Il s'agit d'un pavillon noir décoré d'une tête de mort, de deux tibias croisés et d'un sablier. À cette époque, les pirates français des Caraïbes le nommaient le Jolly Rouge. Les navigateurs anglo-saxons l'ont ensuite adapté sous l'appellation de Jolly Roger. En fait, il s'agit plus d'une erreur de prononciation que de traduction. Depuis, le Jolly Roger devient le nom authentique du pavillon pirate. Le drapeau de Barbe Noire. Edward Teach voulait vivre une belle vie de pirate avant que sa maladie incurable ne l'emporte. Barbe Noire était effectivement le pirate le plus fou et le plus impitoyable de l'histoire. Et son pavillon en disait long sur son sujet. Le drapeau de Barbe Noire représentait le diable en personne, illustré par un squelette tenant de sa main droite un sablier et de sa main gauche une lance qu'il pointait sur un cœur ensanglanté.
Les pirates, on s'en occupe? Pas vrai, Obélix?
Oh oui!
La pirate est mort!
La pirate!
La pirate!
Quand je crierai, à l'abordage!
À l'abordage!
Comment à l'abordage?
Après cette rencontre pour le moins tumultueuse avec des pirates, extraite d'Astérix et Cléopâtre, Amir nous explique pourquoi il aime la radio.
Pourquoi j'aime la radio? J'aime la radio car j'aime transmettre les informations aux autres. Sachez que les enregistrements font partie de mes loisirs. Ce don m'a été offert par ma mère qui était journaliste autrefois. J'aime m'enregistrer quand je lis des livres et aussi quand je fais des interviews avec ma sœur.
Un grand merci à toi, Amir. Et en attendant de te recevoir dans les studios d'IDFM Radio, à ta demande, extrait d'une chanson que vous allez reconnaître si vous êtes fan de Pirates des Caraïbes.
Thank you.
Vous êtes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte consacré à RBR, Radio Bury-Rosaire, la radio où les collégiens, les lycéens de Notre-Dame de Bury à Margency partagent leurs passions, leurs enthousiasmes, leurs engagements. Amir nous l'a confirmé il y a quelques minutes, Barbe Noire demeure le plus célèbre des pirates, ouais. Tiens, mais à propos de célébrités, RBR a consacré l'une de ses émissions à une expo photo très intéressante, initiée par Madame Patricia Gasneau, professeure d'anglais.
Alors, dans le cadre de la séquence sur les célébrités, avec les 5M5, on a étudié la biographie du portraitiste, photographe Youssouf Karch, qui est canadien d'origine arménienne. Donc, à la suite de cette étude de la biographie, on a vu ses œuvres. Donc, ce sont des portraits de célébrités en noir et blanc. Et donc, j'ai proposé à Madame Dubois, le professeur principal des 5M5, qui est aussi professeur d'art plastique, de se joindre au projet qui était de choisir une célébrité de son choix. D'écrire l'autobiographie, donc de se mettre dans la peau de la célébrité choisie, et ensuite de se prendre en photo, soit à la maison, soit en cours d'art plastique, donc à la Youssouf Karch, donc à la façon de Youssouf Karch, en portrait, en noir et blanc, en format A4. Et les élèves ont bien joué le jeu, et on a fait une exposition.
Alors, quel type de célébrité ont-ils choisi ?
Alors, des célébrités dont, malheureusement, je ne connais pas tous les noms, parce que c'est une époque que je ne connais pas, mais on a eu Cameron Diaz, on a eu Mr Bean, on a eu des chanteuses, des actrices, des acteurs, on a eu un James Bond, donc voilà, c'était varié, et c'est ce qui
a... Le prince Harry.
Ouais, le prince Harry aussi,
Marine
donc oui, en effet, donc voilà, c'était très varié, et c'est ce qui fait aussi la richesse du projet.
Figurez-vous que j'ai eu le grand privilège d'interviewer Sacha, alias le prince William, auquel, c'est vrai, il ressemble vraiment, enfin, quand William avait 13 ans.
Je m'appelle Sacha, et pour le projet art plastique anglais, j'ai choisi Prince William, de la famille royale, en Angleterre. J'ai choisi Prince William, car il y avait une drôle de ressemblance avec moi, et c'était plutôt simple de réaliser sa pose. Pour la pose, on est allé en salle d'art plastique, on s'est posé sur un tabouret, on a essayé de reproduire les mimiques un peu des personnages qu'on avait choisis.
Autre privilège, tendre mon micro à Victoire, alias Marilyn. Rendez-vous compte.
Je m'appelle Victoire et j'ai choisi le personnage de Marilyn Monroe pour le projet art plastique anglais. J'ai choisi cette personne car je trouve que Marilyn Monroe est une icône du cinéma et elle a été à Hollywood et elle a une carrière exceptionnelle. J'aime bien l'anglais, donc pour moi faire une biographie sur un personnage j'ai bien aimé. Et pour l'art plastique, je savais pas qu'on devait se déguiser non plus, mais j'ai dû le faire. Donc j'ai fait une heure de maquillage, ça a été très très long pour le maquillage puisqu'il y avait beaucoup beaucoup de trucs à faire. J'ai aussi acheté pas mal d'accessoires comme un boa blanc avec des plumes et une perruque. La perruque ressemblait pas beaucoup, mais ça allait. Et puis c'était assez marrant de nous voir après, même si on était ridicule. Voilà.
Bon, mais pas besoin d'être une célébrité pour s'afficher sur les murs du lycée de Bury. Les élèves ont pu manifester leur talent à l'occasion d'une autre exposition de photos que nous présente Jules, l'un des organisateurs.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jules Baudry en première 7 et je suis très heureux de vous présenter ma toute première chronique pour Radio Bury-Rosaire concernant l'exposition photo.
Il ne s'agit pas de transmettre une vision, mais de toucher les gens à travers une image. C'est ainsi qu'Ansel Adams décrit ce pourquoi il sera connu et ce pourquoi il est encore connu maintenant, la photographie. L'art a vocation à être vécu ensemble. Elle assemble, mais ne se ressemble pas. Chaque artiste a son style, chaque artiste a sa manière d'exprimer ses sentiments. La photographie est un art que l'on oublie souvent, pourtant, c'en est un. Ainsi, donner l'occasion à des photographes de montrer leur art m'avait paru une excellente initiative lorsqu'on me l'avait présenté pour la première fois l'année dernière. L'idée originale d'organiser une exposition de photographie ne vient pas de moi, et l'année passée, le projet avait dû être accéléré en raison du Covid. C'est pour ça que cette année, j'ai eu envie de réitérer cette expérience. Alors je suis allé voir Madame Combette, professeure documentaliste, et lui ai parlé du projet. Enthousiaste, elle a acquiescé, et le projet a commencé à voir le jour.
Jules est venu me voir en début d'année 2021 pour reprendre le projet qui avait été initié par Léo l'année dernière, qui est élève en terminale, afin d'habiller les murs du lycée.
Il nous fallait désormais décider du thème. Et après réflexion, c'est celui des ombres et lumières qui a retenu notre attention. J'ai donc réalisé une affiche que Madame Combette a peaufinée. Nous l'avons placardée sur les murs du lycée, puis j'ai commencé à recevoir des inscriptions.
Nous souhaitions mettre en valeur les talents des élèves. C'est pour ça que nous avons fait appel aux élèves et uniquement à eux, aux lycéens, afin de pouvoir mettre en valeur les photos qu'ils avaient pu prendre en dehors de l'école. Le thème choisi cette année par Jules, après une sélection que nous avions évoquée ensemble, a été « Ombre et lumière ». C'est donc sur cette thématique que nous avons sélectionné les photos envoyées par les lycéens.
Finalement, après quelques mois, le projet s'est enfin concrétisé. Avec Madame Combette, nous avons vérifié et trié les photos, décidé lesquelles afficher ensemble, et enfin décidé lesquelles seraient en format A4 ou A3. Et c'est ainsi qu'en ce printemps 2022, la seconde exposition de Notre-Dame de Bury a pu voir le jour.
Bonjour, je m'appelle Félicie Berthejoux, je suis en première 3. J'ai participé à l'exposition Bury de cette année. J'ai décidé d'y participer parce que j'aime beaucoup prendre des photos, tout simplement déjà parce que j'aime beaucoup regarder les photos pour me souvenir des bons moments que j'ai pu passer. J'aime beaucoup aussi chercher les meilleurs angles, les meilleurs points de vue. Quand je dis les meilleurs, c'est ceux qui me plaisent le plus. Et en fait, je vois un peu ça comme un jeu. Et chercher différentes techniques, différents moyens pour prendre une photo originale ou une photo belle, pour avoir différents ressentis. J'aime aussi la photo en général, pas que en faire, aussi celle des autres, pour juste le plaisir de voir des belles choses.
Bonjour à tous, je m'appelle Ulysse Corgeron, je suis en première 7 et j'ai voulu participer à cette exposition photo pour que chacun puisse admirer de belles photographies d'espaces urbains et naturel en rapport avec le thème présent, donc ombre et lumière, mais aussi pour donner un aspect chaleureux au mur du lycée avec de belles photographies.
Nous, on a aidé Jules à présenter son projet d'exposition photo aux classes du lycée. Donc on est passé dans chacune des classes pour montrer et expliquer son projet pour que le plus de personnes puissent y participer. Ensuite, on l'a aidé il y a quelques jours pour encadrer les photos. Donc pour ça, on a pris 41 cadres parce qu'il y avait beaucoup de photos. Et donc on a mesuré les feuilles, on a mesuré l'emplacement des photos qu'on a collées puis encadrées.
Il y a des photos donc qui t'ont marqué, enfin que tu as retenues, tout.
Alors moi, je sais qu'il y en a une avec le soleil qui se couche. Elle est magnifique parce qu'il y a beaucoup de tons orangés et c'est incroyable. Vraiment, ça va faire parfait dans les couloirs.
Est-ce que vous avez participé, vous, en tant que photographe ou pas?
Non, parce qu'on n'est pas très très forte en photographie. Du coup, on a préféré laisser place aux autres, mais on aide comme on peut.
Je dirais que c'est un très très beau projet qui a été mené à bien et qui permet de valoriser donc ses talents d'élèves. Ce qui me plaît tout particulièrement, c'est de pouvoir accompagner des lycéens dans des projets qu'ils ont envie de monter. Et je trouve que c'est vraiment riche de valoriser les compétences extrascolaires qu'ils ont.
Pour conclure, je pense que cette occasion que Bury nous donne d'exposer notre art, de montrer aux autres ce que l'on sait faire, en l'occurrence des photos, eh bien c'est une occasion en or. J'invite donc toutes celles et ceux qui écoutent cette chronique à aller voir, à aller regarder les photos de vos camarades. Ils ont tous et toutes beaucoup de talent. Et je pense que ça leur ferait très plaisir que vous y jetiez un coup d'œil. Je finirai donc sur une seconde citation d'Ansel Adams. La photographie, comme un moyen puissant d'expression et de communication, offre une variété infinie de perceptions, d'interprétations et d'exécutions.
jour sur RRBR, Radio Bury-Rosaire, Charlotte, en classe de première, a voulu faire partager à toute la communauté scolaire son enthousiasme pour une expo qui se tient encore actuellement au Musée des Arts Déco de Paris. Une chronique introduite par Maëlie en classe de 3e.
RBR, Radio Bury-Rosaire, est de retour. Aujourd'hui, Charlotte, en classe de première, nous fait part de son enthousiasme pour une exposition consacrée à une grande créatrice de mode, Elsa Schiaparelli. L'exposition présente 272 costumes et accessoires de mode et 248 peintures, sculptures, bijoux, flacons de parfum, céramiques, affiches et photographies signées des plus grands artistes du XXe siècle.
Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'exposition Shocking, les mondes surréalistes d'Elsa Schiaparelli, que j'ai eu l'occasion de voir au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Donc cette exposition nous replonge dans le monde surréaliste et avant-gardiste de la maison de mode créée par Elsa Schiaparelli en 1927. Mais vous vous demandez sûrement, mais qui est Elsa Schiaparelli? Alors c'est vrai que lorsqu'on nous parle de grandes créatrices de mode des années 20, le premier nom qui nous vient à l'esprit c'est celui de Gabrielle Chanel. Pourtant, une autre créatrice également célèbre, et accessoirement tout aussi cool, je tiens à le dire, rivale de toujours de Chanel, se dispute le titre de reine de la mode. Et donc, vous l'aurez deviné, il s'agit d'Elsa Schiaparelli.
New York, 1934. Ici, depuis plus de 15 ans, Gabrielle Chanel est une véritable star. Son style d'avant-garde et ses amours romanesques fascinent les Américains, pour qui elle incarne le chic français par excellence. Ce que l'histoire a oublié, c'est qu'à cette époque-là, sa suprématie est sérieusement menacée par une jeune créatrice que rien ne semble arrêter. Et quand, pour la première fois de son histoire, le Time Magazine consacre sa couverture à une couturière, c'est bien sa grande rivale, Elsa Schiaparelli, qui décroche la consécration. Le journal parle d'un génie, d'une créatrice plus folle et plus originale que tous ses contemporains. Depuis la fin des années 20, Elsa Schiaparelli affole la mode avec sa fantaisie délirante et son humour excentrique. Ce style exubérant apporte légèreté et gaieté à une époque où le monde entier souffre de la crise économique. Mais pour Coco Chanel, habituée à être la reine de la haute couture, impossible d'imaginer ne serait-ce qu'une seconde de partager sa couronne. Pourtant, Elsa Schiaparelli ne se laissera jamais impressionner par la grande mademoiselle.
Donc là où le monde de Chanel se tourne vers des vêtements plutôt épurés et pratiques, Schiaparelli, elle va adopter un style provocant et plein d'humour. Donc elle est surtout connue pour avoir détourné la mode en s'inspirant de l'art ou encore du cirque, et sa célèbre robe en homard réalisée avec Dali choque tout le monde à l'époque. C'est aussi la première à introduire le plastique ou encore les zips en haute couture, vous pouvez imaginer la galère avant. Donc c'est une femme féministe qui refuse le rôle de muse auquel sont souvent réduites les femmes à l'époque. Elle se désigne elle-même comme une créatrice travailleuse et insolente. Bon, sinon tout ça c'est très bien, mais il y a quoi à voir à l'expo? C'est une exposition où sont réunies 520 œuvres, dont 272 costumes et accessoires de mode, 248 peintures, sculptures, flacons de parfum, céramiques, affiches et photographies réalisées par les grands noms de l'époque, Man Ray ou encore Salvador Dali. Et oui, il y a de quoi voir. Donc évidemment, tout n'est pas vieillot, je vous rassure. Les amateurs de mode, vous l'aurez deviné, mais des pièces actuelles de Daniel Roseberry, le directeur artistique de la maison depuis 2019, sont également présentes. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette exposition fantastique et mystérieuse qui nous propose des pièces de haute couture à couper le souffle sur des thèmes comme les constellations, le cirque, la poésie, le papillon et tant d'autres choses vraiment. La vie de la créatrice est retracée de A à Z, accompagnée de références artistiques et historiques. Donc je vous invite vraiment à y faire un tour, que vous soyez fan de mode ou non, vous en sortirez ébloui avec les yeux remplis d'étoiles littéralement. Et donc pour rappel, l'exposition se trouve au Musée des Arts Décoratifs jusqu'au 22 janvier 2023.
Merci à Charlotte pour cette première chronique consacrée à la mode sur RBR. Voilà, notre émission est terminée. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez vous aussi nous proposer des chroniques sur des sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent. Alors, à bientôt sur RBR Radio Bury-Rosaire.
Mythe et histoire, avec Barbe Noire, le pirate, grâce à Amir. Photos de célébrités avec les élèves de 5e. Expo mode au musée des arts déco avec Charlotte. Ou expo de photos prises par les lycéens sur le thème Ombre et lumière, présenté par Jules. Mais aussi actualité internationale et française, présentée chaque semaine sur RBR par Pauline, en classe de 3e. Extrait de sa chronique du 17 octobre dernier.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre en Ukraine, de la situation en Arménie, de la grève dans les raffineries et du procès d'Harvey Weinstein. Salut, c'est Pauline. On se retrouve ce lundi pour une nouvelle plongée dans l'actualité en moins de 5 minutes. Une majorité écrasante de pays ont condamné mercredi 12 octobre à l'ONU les annexions illégales de 4 régions ukrainiennes par la Russie. Situation en Arménie. En une semaine seulement, la reprise des affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan affiche déjà un lourd bilan. Grève dans les raffineries. Pour rappel, les opérations des 7 raffineries françaises se sont mises en grève fin septembre pour réclamer des augmentations suite à la publication des très bons résultats financiers de leur entreprise Total Energies. Harvey Weinstein est de retour au tribunal, déjà condamné à 23 ans de prison par la cour d'appel de New York. L'ancien producteur est jugé cette fois par le tribunal de Los Angeles pour des faits présumés de viol et d'agression sexuelle. Pour cette chronique, je vais utiliser les journaux Le Monde, Le Figaro, Ouest France, Libération, 20 minutes et Le Figaro et la chaîne YouTube Hugo décrypte les actus du jour. Voilà, c'était la chronique actu. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle plongée dans l'actualité.
Actualité moins sérieuse, quoique, avec Zara, élève de terminale STMG, qui, après le décès d'Elisabeth II, s'interrogeait très sérieusement, il y a quelques semaines, sur l'avenir de la monarchie britannique. Une chronique présentée par Amandine, en classe de terminale.
Bonjour à tous. Herbert, Radio Buri Rosaire, votre média. Celui où vous pouvez exprimer vos passions, vos coups de cœur, vos réactions à l'actualité. Une nouvelle preuve, Zara, en classe de terminale, avait envie, et elle l'a fait, de nous présenter une chronique sur la mort de la reine d'Angleterre et surtout sur l'intérêt de conserver ou non la monarchie britannique. Elle nous présente les arguments des partisans et des adversaires de la couronne. Un véritable travail de reporter. La preuve ? Eh bien, écoutez.
This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said... The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
Il y a un peu moins d'un mois, la reine Elisabeth II nous a quittés. Son départ a suscité de fortes émotions à travers le monde, mais a aussi fait renaître les disparités d'opinion sur la nécessité de la famille royale dans le monde. Entre ceux qui veulent la voir disparaître et ce qui vaut en elle un symbole éternel, de quel côté faites-vous partie ? Aujourd'hui, c'est avec vous que j'aimerais comprendre les raisons d'une telle différence de point de vue sur la fameuse famille Windsor. Après quelques recherches, merci Google, j'ai pu relever les 4 grands arguments des anti-royalistes. Les membres de la famille ne sont pas très populaires. En effet, la famille Windsor est connue pour ses nombreux scandales, avec notamment le prince Andrew, fils d'Elisabeth II, qui est accusé d'agression sexuelle sur mineurs, ou encore la reine, critiquée pour son manque de compassion suite à la mort de Lady Diana en 1997. Mais par-dessus tout, les révélations racistes des membres de la famille royale envers le fils du couple Harry et Meghan ont également beaucoup choqué. La famille royale coûte très cher pour le peuple britannique. En effet, en 2020, le coût de la famille royale s'est élevé à 69 millions de livres, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Cet argent s'appelle la subvention souveraine et sert à financer des choses telles que le travail de la reine, sa maison, ses voyages et l'entretien de ses palais. Mais que fait vraiment la reine si ce n'est que signer des lois et assister à des événements publics? Une grande partie de son pouvoir a été transférée au fil du temps. Pourtant, la reine Elisabeth fait également office de monarque pour les 54 nations du Commonwealth, dont le Canada, l'Australie, la Jamaïque, qui trouvent ses racines dans l'Empire britannique. Ainsi, beaucoup pensent ne plus avoir besoin de la monarchie, ne savent pas à quoi elle sert. C'est un héritage du colonialisme, d'une époque très différente. En parlant de colonialisme et de privilèges, les temps changent et beaucoup n'acceptent plus les privilèges de naissance. En effet, chaque membre de la famille royale se voit donner à sa naissance un titre. Ils se donnent des titres de propriété sur des endroits et passent leurs vacances de leur propriété privée. Mais les gens ont l'impression qu'ils ne donnent rien en retour. Certains disent même qu'ils sont juste une institution et une tradition britannique inutile qui ne profite à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Les pays du Commonwealth, eux, souhaitent avoir leur propre chef d'État, pouvoir avoir leur propre président, car la famille royale ne leur apporte rien, si ce n'est que prendre leur richesse. C'est la raison pour laquelle de nombreux pays du Commonwealth réclament des réparations financières pour l'esclavage, car ces colonies se sont su voler leurs richesses et veulent les récupérer. La famille royale a pris des blessures, des injustices et du racisme et vivait pendant tout ce temps dans la splendeur, le faste et la richesse obtenues grâce aux produits des crimes. L'Angleterre a donc bénéficié du travail des esclaves jusqu'à aujourd'hui et ils doivent être honnêtes, l'admettre et trouver un moyen de se réconcilier. Après avoir écouté les arguments des anti-royalistes, toi, qu'en penses-tu ? La famille Windsor est-elle selon toi un symbole intemporel à maintenir ou bien plutôt celui d'une époque révolue, colonialiste et problématique ? C'est ainsi que je termine ma chronique, mes chers auditeurs. Merci encore à M. Delattre de m'accorder ces temps de parole, de nous donner l'opportunité de nous enrichir et d'apprendre mutuellement les uns des autres. C'était Zara Meva, élève de Terminal STMG. Au revoir et, j'en suis certaine, à la prochaine.
Merci Zara pour cette chronique consacrée à la survie ou non de la monarchie britannique. Voilà, notre émission est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Vous pouvez vous aussi, comme Zara ou comme Charlotte avec sa vidéo sur l'exposition Schiaparelli au Musée des Arts Déco, vous pouvez tous nous proposer des chroniques sur les sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent. Vous voyez, ce n'est pas difficile à faire. Alors à bientôt sur RBR Radio Bure Rosaire.
Actualité sérieuse avec Pauline, plus people sur la monarchie britannique avec Zara, mais aussi un fox, autrement dit fake news. Fake news, vous savez, ces rumeurs fabriquées de toutes pièces pour harceler et ruiner la réputation d'un individu, ou encore théories mensongères, complotistes et particulièrement nocives qui pullulent sur les réseaux sociaux. Alors, quoi de mieux pour en avertir les adolescents que de leur demander de fabriquer eux-mêmes une fake news et de la partager, bien sûr, avec l'ensemble de leurs camarades. Exemple, Lydia et Mathilda, en classe de première STMG, vous démontre que les Simpsons avaient prévu, annoncé et même organisé, plus de 20 ans auparavant, quelques-unes des catastrophes majeures survenues depuis.
Les Simpsons nous ont habitués au fil des épisodes à faire des prédictions qui sont étonnamment réalisées.
Les Simpsons avaient prédit la victoire de Donald Trump il y a 16 ans. 19 mars de l'année 2000, l'épisode Bart in the Future sort et sa sœur devient présidente. Mais Lisa dit quelque chose de très étonnant.
You know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump.
Lisa nous dévoila donc que Trump deviendra président des États-Unis et 16 ans plus tard, cette prédiction se réalisa.
Dans la saison 4 des Simpsons qui est sortie en 1993, Homer commande un objet qui vient de Osaka, du Japon. Un Japonais prépare les cartons en éternuant dans l'un d'entre eux, comportant le virus venu d'Asie, arrivant donc à Springfield, jusqu'à l'émergence du mot coronavirus.
Le nom de cette famille Simpson n'a pas été choisi par hasard. Lorsqu'on tape Simpson dans la page jaune, on tombe sur un certain Joel Simpson, dans la Nièvre, et il est voyant.
Les Simpson seraient donc une vaste machination internationale, orchestrée par un certain Joel Simpson, voyant de profession et habitant Nevers. Ouais, j'ai vérifié, il existe bien, j'ai même son adresse. Rendez-vous compte. Alors, pour élucider ce mystère, écoutez donc RBR, tiens ça rime. Ainsi se termine notre rendez-vous compte consacré à RBR, Radio Bure-et-Rosaire, la radio créée par et pour les élèves de cet établissement de Margency, près d'Anguin. Longue et belle vie à cette jeune radio et merci à tous les élèves pour leur enthousiasme. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delattre sur IDFM Radio. La semaine prochaine, même heure sur IDFM.
IDFM 98 FM.